des livres plein les oreilles. Bonjour à vous toutes et vous tous, Clotilde Saye au micro de Canal M pour vous présenter une nouvelle fois des livres plein les oreilles, ici et maintenant en ce beau jeudi. Ravie de vous recevoir et ravie aussi de recevoir des invités, je dois dire, que j'adore, surtout quelqu'un que je vais avoir beaucoup de mal à vous voyez, France Castel, bonjour.
Bonjour Clotilde.
Et puis également celui qu'on peut appeler comment, votre biographe?
On va l'appeler comme ça,
Jean-Yves Girard, celui donc qui a rédigé, qui vous a écouté pendant des heures et des heures pour écrire ici et maintenant ce livre dont nous allons parler abondamment aujourd'hui. Mais également à l'émission, il y aura Faline Beaubier de Caeb qui va nous présenter une chronique. Ce sera en seconde partie d'émission. Et dans quelques secondes, je m'entretiens avec l'ami, le si désiré, Gérald Cousineau. Aimez-vous ça, Gérald, quand je vous qualifie de si désiré?
Oui, ça a réchauffé ma vieille carcasse.
Je le savais que ça vous plairait. Gérald, vous nous arrivez avec un livre de Frédéric Lenoir, l'homme qui a consacré tellement d'heures, tellement de temps au bonheur, et qui cette fois-ci s'intéresse au monde animal. Je vous laisse le soin de nous présenter ce bouquin.
Alors donc, de ce monsieur, Frédéric Lenoir, livre paru l'an dernier, « Lettres ouvertes aux animaux et à ceux qui les aiment », un tout petit livre, à peu près 200 pages. Bon, Lenoir, vous l'avez dit, c'est un philosophe, un sociologue. Ouais. Il a une œuvre abondante, et le mot est faible. Il a énormément écrit. D'ailleurs, il dit, parlant des animaux, « J'ai écrit presque tous mes livres avec un chat assis à côté de mon ordinateur. » Ça commence bien. Et ce monsieur Lenoir se dit tout de suite contre la corrida, contre la chasse sportive, mais il n'est pas encore tout à fait végétarien. Donc, on a une meilleure idée du bonhomme, mais il tend vers le végétarisme. Alors, dans ce livre, évidemment, il défend la cause animale. Et en fait, c'est plus large que ça. Il défend la cause de toute forme de vie sur Terre. Et bien sûr, il dénonce les atrocités auxquelles on peut soumettre les animaux, auxquelles on a soumis les animaux depuis, mon Dieu, des millénaires maintenant. Hein. Alors, c'est une sorte de cours d'anthropologie 101, je dirais. Il part du néolithique jusqu'à aujourd'hui. Bon, il va parler de la domestication des animaux à leur exploitation. Ensuite, de leur exploitation à la protection des animaux. Alors là, tout y passe. Hein. Comment les hommes en sont venus à l'agriculture. Ils sont passés du nomadisme au sédentarisme. Donc, il y a une révolution agricole. Et saviez-vous, Clotilde, que le mot argent, en latin, on dit pecunia, venait d'un autre mot latin, pecus, qui veut dire bétail.
Ah,
alors,
non.
Être riche, c'était posséder du bétail.
Ben oui, évidemment, c'est ça. Voilà, plus on avait de têtes de bœuf dans son cheptel. D'ailleurs, on n'appelait pas ça un cheptel. Si, comment on appelle ça? Je ne sais pas. En tout cas, plus on était riche, quoi.
Voilà. Donc,
aujourd'hui, plus on a de cornes et plus ça veut dire autre chose.
Bon.
Excusez-la, je ne sais pas pourquoi tout d'un coup ça m'est venu à l'esprit.
Ah, j'entends Madame Castel rire.
Oui, absolument. Comment voulez-vous qu'on l'évite, franchement?
Oui. Donc, tous ces animaux, bien sûr, on s'est dit, peut-être qu'on pourrait les rentabiliser. Ouais. Alors, on a commencé à faire de l'argent avec eux. Comment? Bien sûr, en les abattant, en les mangeant, en vendant tout ça aux gens, en les abattant et en les vendant ensuite. Donc, voilà, l'abattage est devenu industriel. Et les animaux, longtemps, entre autres dans la tradition chrétienne, et c'était des créatures sans sensibilité. On dit que ce ne sont pas des êtres qui sont capables de souffrir. Descartes, par exemple, considérait les animaux comme de simples machines. Ça fait mal aux animaux, pauvre M. Descartes. Non, maintenant, on a une véritable explosion avec l'éthologie, fondée en quelque sorte par Corinne Lorenz. Non, ce n'est pas vrai. On se rend compte que les animaux ont une sensibilité, qu'ils peuvent éprouver des sentiments. Et d'ailleurs, Lenoir cite beaucoup d'études vraiment étonnantes sur le comportement de certaines espèces animales et parfois sur le comportement des animaux entre eux. Je cite, par exemple, il parle par exemple d'un hippopotame qui, à un moment donné, vient au secours d'une antilope. l'antilope attaquée par un crocodile. Il va la ramener sur la berge et là, il va ouvrir toute grande sa gueule pour réchauffer la bête.
C'est
curieux, ça.
Mais oui, c'est
moi,
fou,
moi, vraiment, j'ai été surpris. Il va parler d'un chat, d'une chatte, en fait, qui va dans un fossé recueillir un chiot et qui va l'adopter, en quelque sorte.
Ouais,
il y a moult exemples comme ça, donc, du comportement qui peut nous paraître à nous étrange. Et non, les animaux peuvent éprouver des sentiments. D'ailleurs, il y a un éthologue qui dit « Sommes-nous trop bêtes pour comprendre l'intelligence des animaux? »
Exactement. Oui, c'est vrai, hein.
Alors, Lenoir parle bien sûr d'une différence entre l'intelligence animale, l'intelligence humaine, mais justement, c'est au niveau, c'est une différence. On ne parle pas ici d'infériorité ou de supériorité.
Non, non,
pas
c'est
du
clair.
Tout. Et parlant des animaux toujours, donc je parle d'intelligence, mais j'ai perdu le fil, ramenez-moi.
Moi, je vais vous dire, de toute façon, je vais vous ramener. La grande différence, finalement, c'est beaucoup le langage et le raisonnement par le langage.
Voilà.
C'est d'ailleurs la question qu'il pose en page 27, Gérald. Nous n'aurons peut-être jamais la réponse à cette légitime question. Que s'est-il passé dans le cerveau de Sapiens pour qu'il développe très rapidement un langage singulier, un imaginaire aussi riche et une pensée symbolique favorisant l'émergence de l'art ou encore de la religion?
Voilà. Alors ça, c'est vraiment ce qui, selon lui, différencie l'homme de la bête, en quelque sorte, donc une intelligence, un langage complexe, un imaginaire, évidemment, et aussi, entre autres choses, une volonté parfois féroce de domination. D'ailleurs, rappelez-vous la Genèse, Dieu disait à l'homme, tu vas dominer la terre et toutes les créatures qui s'y trouvent. Alors, on part de loin, là. Donc, aujourd'hui, mais c'est un livre tout court, hein, tout simple, je le signale tout de suite, il n'y a pas de jargon du tout, facile à comprendre, mais qui nous fait réfléchir. Et ce n'est pas juste au niveau du constat. Il ne fait pas juste que dire des... Parce qu'il parle de l'abattage, et ça, ce sont des pages très dures.
Ce sont des pages difficiles, oui.
Oui, entre autres, l'abattage rituel où l'animal met du temps à mourir parce que
absolument.
C'est un rituel religieux. Alors, ça, il dénonce ça, bien sûr. Et entre autres solutions pour lui, c'est il voit l'abattage à la ferme. Mais j'ai appris qu'en France, c'est interdit, l'abattage à la ferme. Au Québec, je ne sais pas.
Je ne suis pas spécialiste de la chose.
C'est ça. Donc, il n'y a pas que des constats qui, parfois, sont très durs, mais il offre quand même des pistes de solutions. Mais évidemment, devant la hyper-consommation de viande que nous connaissons aujourd'hui, il parle, dit-il, d'à peu près 60 milliards d'animaux qui seraient abattus chaque année.
60 milliards.
Ça nous en fait quelques-uns par habitant, ça, là, 60 milliards. Oh là là,
on ne peut que faire la grimace quand on entend ça.
Oui.
Ça me rappelle... France...
Non, mais je me demandais pourquoi, à ce moment-là, les animaux peuvent se procréer aussi avec autant de volume. Ça servirait à quoi qu'il y en ait tant?
Justement, Lenoir préconise qu'il y ait moins d'animaux, donc sinon là, il y aurait moins de pâturage, mais ça suppose que les gens vont diminuer leur consommation de viande, parce que la consommation de viande est freinée, cause non seulement des problèmes de santé, mais parfois un désastre écologique.
Oui.
Pensez à toutes ces forêts qu'on abat pour en faire des pâturages, justement. Et je ne l'ai pas dit, mais ce livre, vous l'avez peut-être constaté, il est émaillé de citations. Et là, il parle de Plutarque et de Démosthène jusqu'à Milan Kundera, en passant par Montaigne.
Montaigne, j'ai la citation sous les yeux, si je peux me permettre, Gérald. Je dirais qu'il y a plus de distance de tel homme à tel homme qu'il n'y en a de tel homme à telle bête. Car je ne pense pas qu'il y ait une si grande distance de bête à bête. Disait Montaigne, comme il y a de grands intervalles d'homme à homme en matière de prudence, de raison et de mémoire. Hein? Autrement dit, il n'y a pas tant de différence entre les bêtes qu'entre nous, qu'entre les hommes. Mais parce qu'il n'y a pas le jugement non plus.
C'est ça, et moi je me fais un plaisir d'ajouter celle de Mathieu Ricard, où il dit la plupart des gens aiment les animaux, mais notre compassion s'arrête au bord de notre assiette.
Évidemment, ça, c'est dit par un moine
bouddhiste et végétarien. Mais n'empêche que ça...
et vous savez que ça, c'est tiré de son œuvre, de son livre, Mathieu Ricard, qu'il a écrit sur la bienveillance, qui est une brique de 900 pages. Ouf. Je le sais parce que c'est moi qui l'ai lu ici pour vous et voir. Et il y a plusieurs chapitres qui justement concerne les animaux. Et lui aussi, il nous fait part d'expériences absolument extraordinaires qui sont vécues dans la nature par les animaux. Et entre autres, par effectivement, comme cet hippopotame qui est venu en aide à cette antilope, par des épisodes d'entraide réellement entre les animaux. C'est assez exceptionnel et malheureusement, ça ne se sait pas assez. Mais Gérald, nous vous avons.
Grand chasseur devant l'éternel.
Mais et nous avons...
Je parlais de nombreuses citations. Ce qui est bien dans ce livre également, c'est que l'auteur a puisé à beaucoup de sources et elles sont citées à la fin. Donc, comme le livre de ce monsieur, Ricard, est cité avec d'autres. Alors, le lecteur qui veut aller plus loin, qui réfléchit à la chose, ben, a l'occasion vraiment de poursuivre sa lecture. Et je signale qu'en format sonore, j'ai vu passer des livres sur le sujet. Donc, on a des livres, on peut réfléchir davantage. Oui. Et je pense que Le Noir s'y prend très bien pour nous mettre sur la piste.
Oui, la prochaine fois qu'on va se mettre une bouchée de bœuf dans la bouche.
Oui, voilà.
Vive les légumineuses.
Vive les légumineuses, oui, c'est ça.
Le soja, oui, on va se mettre le soja.
Oui, vous savez comment nous avons la fibre, bien, enfin bref, allez je vous laisse là-dessus, mon ami, parce que je sens que nous allons déraper. Merci Gérald Cousineau, c'est toujours grand bonheur de vous retrouver. Oui, et bon appétit. Salut Gérald, salut.
Plaisir.
Au revoir.
La terre est une poussière d'étoiles. La lune sera mon diadème pour mes noces transsidérales. La
Et tu l'as chanté, hein, intact, de toute façon, les paroles.
Peut-être pas, mais les paroles.
Les paroles, oui.
Oui, je trouve que c'est un des grands textes.
Avance un petit peu, François.
Je trouve que c'est un des grands textes de Luc Plamondon, par rapport à ce personnage-là, de Stella, qui, chaque soir, avait cette dualité, son rêve, d'aller voir si la vie était éternelle.
France Castel, on ne sait jamais si les auditeurs viennent juste de se joindre à nous. Vous aurez certainement retrouvé, compris que c'était la vraie voix de France, cette espèce de velours.
Ah oui, c'est maintenant, mais je te dis que j'écoutais cette voix-là encore et ça me fait toujours un choc à chaque fois que j'écoute des enregistrements d'il y a 30, 40 ans. C'est de voir la pureté de la voix qui est disparue au profit de quelque chose d'autre.
De quelque chose d'autre, c'est ça.
Ça fait pas longtemps que je peux dire au profit de... Parce qu'avant, je dirais... Je n'y voyais que des dommages.
France, je t'ai invité, on ne va pas faire semblant, on ne va pas se dire vous, on ne va pas y arriver.
Non, je te connais, Clotilde.
Depuis quelques années.
Je te défends, Clotilde, la sœur de ma meilleure amie. Bon.
Oui, c'est vrai en plus, Marie-Jean. Et France, il y a eu ce premier livre pour lequel je t'avais invité.
Oui.
Et, bon. Et là, il y en a un deuxième. Alors évidemment, on se pose tous la question, on se dit pourquoi. Et c'est justement les premières pages, exactement. Ça commence par pourquoi ce livre.
Ben oui.
Et Jean-Yves Girard, qui est ici. Bonjour Jean-Yves.
Bonjour.
Vous qui êtes le biographe. Donc vous écrivez, bonne question, par où commencer? À moins que ce soit toi, France, qui ait écrit ces mots-là, je ne sais pas. Oui,
c'est la seule chose que j'ai écrit.
C'est ça. Et alors là, alors pourquoi ce livre? Parce qu'évidemment, c'était ma première question. Et là, il y a toutes sortes de réponses.
Oui.
Pour donner espoir, c'est une preuve de religieux, mon Dieu, de religieux. Oh là,
quel
lapsus. Entre résilience et contagieux,
voilà,
figure-toi, parce
voilà.
que là, j'ai lu trop okay. vite. Parce que pour laisser quelque chose d'authentique et de cohérent mm-hmm. À tes enfants, pour mm-hmm. mettre les points sur les i, les barres mm-hmm. sur les t, mm-hmm. pour que le cheminement serve à d'autres, pour te pardonner toujours un peu plus, pour continuer à avancer, pour donner un exemple que personne n'est une erreur.
Ouais.
Et puis, pourquoi pas, tu finis là-dessus. Alors, ouais. laquelle de ces réponses...
Elles sont toutes vraies.
Elles sont toutes vraies.
Hein. Mais il y en a une qui m'ont censuré, puis je me disais, pour faire un peu d'argent.
Non, c'est pas vrai.
Oui, ils l'ont enlevé, ils voulaient pas.
Vraiment?
Oui, la presse voulait pas.
Quoi?
Je te jure, non. Ben, écoute, mais c'est normal.
Mais, oui.
mais c'était comme une boutade.
Bien sûr.
C'est parce que je voulais aller... Mais une boutade, mais en même temps, je voulais aller aussi dans ma vérité profonde. C'est pas du tout l'objectif.
Non, c'est ça.
Mais il y avait aussi ce pourquoi pas.
Mais non, exactement. C'est... France, on parlera pas ici. On va pas revenir sur les dépendances. De toute façon,
je pense que t'as
tout
fine,
dit. Voilà. Et tout est à nouveau dit, et tout est bien compris, et tout est bien expliqué. On passe complètement autre chose.
Oui.
Mais ici et maintenant, par exemple,
oui.
est-ce que c'est une expression qui, je trouve, est tellement galvaudée en ce moment?
Exactement.
Et c'est pas si facile que ça, ici et
maintenant. Non, c'est tout... Mais c'est extraordinaire, l'exercice qu'on a
fait. Que vous avez fait ensemble.
Parce que
de vous asseoir. Hein.
De s'asseoir et de se dire que on porte tout le temps tout notre histoire.
Oui.
Et qu'à chaque jour, sans même le décider... Y arrivait, soit qu'on tombe sur une photo, un objet, ou par exemple, si on va voir un film, ça s'appelle Miles Ahead, il y a tout le temps dans le ici, maintenant, une façon de comprendre sa vie un peu mieux.
Ouais.
Et de voir aussi qu'il y a tout le temps quelque chose qui nous rappelle. Par exemple, si je te parle, si je faisais un chapitre aujourd'hui, je pourrais parler et de toi et
bien
de
le
dialogue avec la souffrance.
C'est ça, bien
et
sûr,
on pourrait parler de la souffrance peut-être
exactement.
D'une autre façon. Et c'était un peu cet angle-là qu'on voulait prendre pour pas radoter des choses et justement mettre à jour certaines choses sur ma vie, quoi.
Oui, mais maintenant que c'est écrit, ce deuxième bouquin-là, est-ce que ça va changer quelque chose pour toi? Et qu'est-ce qui se serait passé si tu ne l'avais pas écrit? Est-ce qu'il y aurait eu un manque?
Bon.
Je ne parle pas financier, là.
Non. ça aurait changé quelque chose. Ça m'a permis de faire un grand ménage.
Oui.
Ah oui, hein? Ça m'a permis aussi, parce que là, il faut un peu revenir là-dessus, sur ce qui avait été trouvé dans le mur.
Bien sûr qu'on va en parler.
C'est à partir de
voilà.
ça. Alors, ce qui avait été trouvé dans le mur, qui était supposé d'être une joie pour moi, avec tous les secrets de mon père. Alors, c'était vraiment...
Ça, c'est l'émission à Michel Barrette.
Ouais,
Viens-tu faire un tour. On a été quelques-uns à le voir, mais il semblerait qu'il y a énormément de choses qui ont été coupées, là, parce que pour toi, ça a dû être un choc terrible. Jean-Yves, vous voulez nous rappeler un petit peu ce qui s'est passé à cette émission-là?
Oh mon Dieu, France, vous pouvez m'aider un peu là-dessus, parce que c'est vous qui l'avez faite.
Ouais.
Mais bon, allez-y, c'est une émission...
Non, mais c'est une émission où on devait aller... dans nos maisons d'enfance.
Oui.
Moi, j'avais dû rechercher ce que je voulais pas aller dans la maison de mon enfance.
À Sherbrooke.
Oui, je voulais aller dans la maison de ma grand-mère, où j'ai été plus en sécurité, j'étais plus heureuse. Là. Et ils ont consenti, mais on devait quand même aller à Sherbrooke pour voir mon école. Et il y avait aussi une surprise, parce qu'un de mes fils vit là. Alors, je savais que j'irais à Sherbrooke, mais non pas dans ma maison d'enfance. Bref, on est allé à Coaticook, voir la maison de ma grand-mère, que je voulais visiter, que je voulais retrouver des choses. Et... Une semaine, la maison était à terre. Ils avaient fait un parking une semaine avant, alors il n'y avait plus de maison. Alors Michel Barrette et moi, on était assis là.
Pouette,
et la maison n'était plus là. Donc on continue notre affaire pour s'en venir. J'avais là, en tout cas, de fil en aiguille, Michel me dit, regarde, monte la côte, moi je vais passer juste devant. Bref, on est entré dans la maison de l'enfance à l'improviste. C'était quelque chose.
Et c'était vraiment à l'improviste, parce que moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, oh, bon, quand même, ils ont dû arranger ça.
C'est tout, ça aurait été trop long, ça aurait fait une heure et demie, ça aurait fait un documentaire.
Ah, ouais.
Alors, c'était vraiment à l'improviste.
Aïe, aïe, aïe.
Et là, elle rentre là, et là, il y a le gars en camisole qui s'habille, j'attends, veux-tu rentrer? Oui, non, non, oui, finalement, je veux rentrer. Et là, c'est quelque chose.
Oui.
Et de là, ces gens-là me donnent un paquet de choses pour me faire plaisir. Et c'était tous les secrets. J'étais donc emmurée.
Emmurée.
Qui avait été trouvée dans un mur. Qui avait été enlevée quand ils avaient fait de la rénovation de cette maison-là. Mmh.
Exactement. Ouais. Puis là, j'avais montré ça à Jean-Yves.
Ouais.
Parce qu'il voulait reparler de mon enfance. Mais je me dis, ici et maintenant, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'était ça.
Oui, oui.
Alors, et avec tout ça, il y avait eu mon ménage intérieur sur mon histoire personnelle.
Bien sûr.
Alors, c'était ça. Moi, j'étais obligée de retourner cracher, comme on dit.
Exactement. Parce que oui, il y avait du nouveau quand même. Il y avait des choses dont vous n'aviez jamais, dont tu n'avais jamais parlé auparavant.
Non, c'est sûr. Puis que j'en aurais pas parlé si ça n'avait pas été public. C'est sûr.
Non.
C'est ça.
Et en plus, excusez-moi, mais ça n'a pas été... On n'est pas allé dans les détails aussi.
Non. Non,
je pense que, oui.
Ah non, c'est resté.
Mais on comprend quand même que...
Ce qui s'est passé.
Enfin, oui.
Hein? On comprend ce qui s'est passé, on comprend
ce qu'on a besoin de comprendre.
Oui,
exactement,
ça.
Exactement.
Sans mettre les mots...
Exactement. Jean-Yves, alors, vous connaissiez déjà France ou pas du tout? On vous a fait la proposition d'aller à la rencontre de France. Hein?
Oui, ben écoutez, moi, je voulais... Ça fait longtemps que je voulais écrire une biographie. Oui. Et évidemment, je connaissais France comme tout le monde, mais en plus, j'avais travaillé un peu avec elle quand j'étais au Théâtre de Quatre-Sous. J'étais le directeur des communications il y a 20 ans. Et France, à l'époque, elle avait fait un spectacle qui s'appelait Le Blues du Toaster.
Mais oui.
Et j'avais travaillé sur la promotion du spectacle.
Ah,
j'avais fait leur affiche et tout ça. Donc, j'avais travaillé un peu avec France qui s'en souvenait plus.
Je me souvenais de tes yeux bleus.
Oui, mes yeux bleus, peut-être. Et donc, évidemment, France, c'est un personnage de roman.
Oui.
Donc, elle méritait un autre livre. Surtout que depuis son premier livre...
Non, mais ça, c'est important. Elle méritait un autre livre.
Oui.
C'est pas pour dénigrer le premier, mais c'est parce que quoi? On a l'impression qu'il y avait encore justement beaucoup de choses qui méritaient d'être dites, qui avaient été tues dans le... Je sais pas, tu sais.
Oui, c'est parce que le premier livre était beaucoup sur sa descente en enfer.
Ouais.
Alors que, bon, ça faisait 20 ans quand même,
ouais.
Et il y avait eu une remontée assez spectaculaire.
Bien, oui, sûr, bien sûr.
Et 20 ans dans la vie d'une personne, c'est beaucoup. Et France, elle avait encore beaucoup de choses à dire.
Ouais.
Et France aussi, c'est un symbole de résilience, de courage.
Oui. Moi c'est ce que je dis toujours. France, c'est une voix, évidemment. C'est un rire, c'est une énergie. C'est un cœur gros comme ça. C'est vrai, hein?
Oui.
C'est un cerveau bizarrement fait, ça m'a fait tellement rire.
Ben,
l'affaire du scanner,
Oui.
C'est justement aussi une résilience. France, qu'est-ce qu'elle n'est pas, France Castel?
Oh, wow! Un homme.
Oui, ça, il n'y a pas de doute.
Non, mais dans le sens que... Oui. Parce que, qu'est-ce que je ne suis pas? Boy, dans quel sens, là?
Ben, dans le sens que tu es tellement... complète, je veux dire, je parlais d'une énergie, d'un rire.
Oui.
Dans quoi t'as l'impression que tu ne t'es pas réalisée?
Dans tout. Je suis quelqu'un qui touche à plein de choses et qui ne va pas nécessairement au fond, à part certaines affaires.
Ouais.
Alors, je suis un peu, j'ai comme un problème d'abondance et de curiosité et je ne peux pas aller à fond. Je suis trop curieuse pour embrasser quelque chose.
Oui, mais France, quand tu chantes, pas à moitié.
Non,
quand
mais
tu joues, quand tu joues au théâtre, tu ne joues pas à moitié, que ce soit les Troyennes ou que ce soit un spectacle de théâtre d'été, quand même.
T'es fine. Mais il y a toujours une partie de moi qui pense qu'il aurait dû respecter un peu plus une sorte de discipline, peut-être deux. Qu'il aurait dû y aller, d'être moins curieuse, d'être moins multidisciplinaire, mais dans le fond...
Mais France attend encore son... Le rôle.
Oui.
Mais malgré que dans le film qui va sortir cette année...
Oui, hein? Ça, on a hâte. Hein?
Ça, j'ai l'impression que c'est un rôle assez important.
On peut en parler ou pas?
Oui. Ça s'appelle « Quand l'amour se creuse un trou ». C'est l'histoire
C'est un film d'Ara Ball, c'est vraiment son vrai nom, pour faire concurrence à Ara Ball.
Ah, ben oui, bien sûr. Ouais, ouais.
Et c'est l'histoire d'un jeune homme de 18 ans à peine, qui a une punition de ses parents pour reprendre ses études d'été dans une maison à la campagne. Il va rencontrer une femme de 73 ans. Il va tomber en amour avec elle.
Oh boy!
Et ils vont vivre un amour.
Ah! Oh, ouais. Physique. Ça sort quand?
Physique. Et ça sort au printemps. Là, j'ai vu un premier montage.
Qui ouais. fait le jeune homme?
Il s'appelle Peter... Voyons, oh mon Dieu, Seigneur.
Tu te souviens de ses yeux, mais Morgan. Pas de son nom.
Non, pas Peter.
De ses yeux aussi, oui.
Oh mon Dieu!
Attends, je vais te le dire avant la fin de l'émission. Là, tu m'as pris, okay. Mon cerveau a fait... Mais c'est un jeune acteur, bien sûr. Ouais. Formidable, qui a beaucoup d'expérience. Je lui avais demandé « Qu'est-ce que ça te fait embrasser une vieille femme comme ça? » Il m'avait répondu « Ça fait partie de l'excitation. »
Oh.
Robert Naylor, il s'appelle.
Robert Naylor, oui. France, l'amitié compte beaucoup, entre autres l'amitié avec France Baudouin. Et oui. France, elle te pousse à faire un show.
Oui.
Qu'est-ce que t'attends, Seigneur?
Écoute,
elle est prête à le produire, t'as oui. tout. T'as
non, mais France et Serge de Noncourt.
Oui,
oui.
Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai. Tu vois ce que j'ai fait? J'ai fait un exercice cette année. J'ai travaillé avec un auteur, compositeur. Et j'ai des chansons, j'en ai 7-8.
Ah
originale
ben.
Et assez bonne, que peut-être je grefferais avec
tiens donc.
Beaucoup d'humour entre ça, parce que toutes les chansons sont d'une lourdeur, mais extraordinaire. Et j'ai comme
t'as
peut-être
peur,
une
t'as
idée.
Peur de ça, la lourdeur, parce que même à un moment donné, tu l'écris dans le livre,
ouais.
que finalement, t'es plus à ton aise dans quelque chose qui est un petit peu plus léger. Enfin, en fait, c'est la retenue dont tu as peur,
oui.
parce que t'es quelqu'un qui te retient pas.
Non, c'est ça.
Et
c'est
quand on
ça.
Te demande de te retenir
oh
sur
mon
une scène...
Oh mon Dieu, je suis pas heureuse.
T'es pas heureuse.
Pas heureuse. Mais c'est ouais. ça. Alors donc, on peut aller dans ces extrêmes-là et j'irai ouais. dans la légèreté, peut-être dans ouais. les propos. Ouais. Mais garde, est-ce que je vais le faire?
Oui!
Je sais pas. J'ai peut-être peur. J'ai peut-être... Peut-être que je veux pas vivre...
Tu vas pas
j'allais
te
dire le succès et ben peut-être oui. l'échec. Je sais pas, c'est un des deux.
Ouais.
Il y a quelque chose, j'ai un traumatisme, c'est clair.
C'est clair. Clair, oui.
Mais il n'y a pas aussi le... Oui, d'avoir peur parce que vous seriez seul sur scène, ou enfin...
Ah, oh, je serais pas seul.
Non, mais tout serait braqué sur vous,
oui.
je veux dire, ce serait...
Oui, je serais la seule et unique responsable.
C'est ça. Oui, c'est ça.
Alors
c'est
que
ça.
Le blues du Toaster, par exemple...
Ah, ça me convenait très bien.
Vous étiez trois, non?
On était trois, avec Nadine.
Oui,
ah oui,
ben,
oui, c'est ça, exactement.
Ouais.
Et c'est ça.
Bon, France, tu restes avec nous, parce que là, je voudrais m'entretenir en début de seconde partie un petit peu plus avec Jean-Yves Girard,
ben, oui,
pour qu'on fasse connaissance un peu plus avec lui, parce que je sais qu'il en prépare d'autres.
Vous
aussi,
avez intérêt à le connaître.
Bien, exactement, c'est ce que je me dis. France, en 30 secondes, est-ce que tu crois en la réincarnation? Si oui, en quoi tu voudrais te réincarner?
Oh... La réincarnation, c'est chaque jour. C'est-à-dire que c'est chaque vie est... Ah non, je ne veux pas me réincarner du tout autrement qu'aujourd'hui, ici, maintenant.
Merci, c'était France Castel qu'on retrouve tout de suite après la pause. Restez avec nous. Des livres pleins les oreilles, la suite. Voilà, alors je vous le disais juste avant la pause, j'ai gardé avec moi France Castel et son biographe Jean-Yves Girard. Jean-Yves Girard, d'abord, je voudrais qu'on fasse un peu plus connaissance
oui.
avec vous. Vous êtes
Allez-y.
Journaliste,
oui.
entre autres pour Le Devoir.
Oh, ça fait quand même un petit bout. J'ai été chroniqueur au Devoir.
Vous avez été chroniqueur au Devoir, vous avez été agent de communication.
Oui, mais surtout, journaliste pour les magazines comme à Châtelaine.
Oui, d'accord.
Ou à Québec, mais j'ai commencé à voir aussi.
Mm-hmm.
Moi, je me suis spécialisé... À un moment donné, je faisais beaucoup d'articles de voyage, mais ensuite, ça a changé. J'ai fait beaucoup de portraits de vedettes. Alors, j'ai rencontré la plupart des gens connus au Québec.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Et donc, c'est devenu ma spécialité. Et c'est ça, un jour, à la presse, on m'a parlé de France. Ils avaient envie de faire un livre avec elle.
Mm-hmm.
Et on s'est rencontrés. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez là.
Oui, mais... absolument. Et là, vous vous dites d'ailleurs, parce que je précise que chaque début de chapitre, ce sont vos mots à vous, vos commentaires à vous. Oui. Vous précisez un peu un élément ou deux.
Oui, je dois...
Voilà.
Oui,
vous mettez en situation les propos de France, en quelque sorte.
On a voulu faire une biographie, parce que moi, je suis vraiment un fan de biographies. J'en ai lu plein. De Michel Richard à Mick Jagger... en passant par Isadora Duncan, j'ai tous lu. Mais je voulais faire quelque chose de différent. Puis France, elle m'a inspiré un peu cette façon-là de présenter la vie d'une personne.
En cadeau, hein? En cadeau, parce que ça, c'est ce que vous dites, que vous aviez reçu cette vie-là en cadeau.
Oui, c'était c'est un énorme cadeau, oui. Parce que en même temps, quand je fais un texte sur une personne, je me mets toujours à la place de la personne qui me confie quand même sa vie, ses trucs très, très personnels. Donc, je me dis, qu'est-ce que j'aimerais, moi, voir? Qu'est-ce que j'aimerais lire?
Okay.
C'est pour ça que je respecte beaucoup les gens avec qui je parle.
Oui. Est-ce qu'il y a des fois, parce que là, moi, je vous imagine autour d'une table ou, je ne sais pas, moi, dans un salon, est-ce qu'il y a des fois où il a fallu la retenir, France Castel, ou est-ce qu'il y a des fois où il a fallu la pousser un peu en disant, si, vas-y, comment ça se passe? Est-ce qu'on fait entièrement confiance? On pousse ou pas, jamais?
Oh, c'est une question. Il y a Christiane Charette qui m'avait dit un jour qu'une entrevue, c'est une danse.
Uh-huh.
Alors, ça se danse à deux. Donc, il faut que la personne ait envie de danser avec toi. Et je me suis rendu compte aussi, parce que bon, quand on fait une biographie, ce que je me suis aperçu, aussi, il y a quand même un lien qui se développe au fil des rencontres.
Oui.
Parce qu'on s'est rencontrés 30, 40 fois, je ne sais pas combien de fois.
J'imagine.
Au restaurant, chez moi, chez elle. Mais chez elle, ça a pris beaucoup de temps. comme je l'écris...
Oui, c'est vrai, à un moment donné, vous le dites.
Il y a environ... Il y a peut-être 10 personnes qui ont le droit d'aller chez elle, et là-dedans, il y a sa femme de ménage. Donc, moi, ça a pris 5 mois pour que je sois invité. Et donc, c'est ça. Donc, on crée un lien, et à un moment donné, on se dit... Il y a des sujets qu'on aborde quand même un peu plus loin dans la rencontre.
Oui, bien sûr. Oui, oui. Au moment, lorsque vous dansez. Là,
un peu plus opportun quand ça devient un slow.
Ah oui? Ah, j'allais dire un tango, moi, tu sais, parce que...
Moi, je suis plus un slow que le tango. Je sais pas danser le tango.
Qu'est-ce qui vous a surpris le plus chez France Castel?
Ah, mon Dieu. Qu'est-ce qui m'a surpris?
Je veux dire, la chose que vraiment, vous vous attendiez pas à ce qu'elle vous dise.
Honnêtement, je me souviens pas. Je pense que j'avais une bonne idée du personnage. Ça n'a pas été une surprise comme personnalité ou comme personne, parce que France est un livre ouvert.
Oui.
C'est pas une femme mystérieuse. C'est pas. Ouais. Et elle était tellement disponible. J'ai pas eu de surprise. J'ai eu juste seulement des super beaux, des beaux moments, des instants...
Émouvants, sûrement.
Oui, que
vous avez dû embrailler un petit peu tous les deux. La boîte de Kleenex ne devait pas être loin quand même, non?
Oh oui, France. Mais on s'arrangeait pour passer à autre chose assez rapidement.
C'est vrai?
Oui, il y a des moments où c'est plus intense, c'est évident. Il y a des journées aussi où on est plus émotif. Mais c'est sûr que c'est quand elle parle de ses enfants que France est le plus... c'est là où on dirait qu'il y a quelque chose.
C'est votre plus grand rôle, ça. Enfin,
c'est ma plus grande rôle aussi, ma plus grande vulnérabilité. Tu sais, je veux dire, ça reste quelque chose de profondément délicat.
Oui, c'est ça. Oui. Encore. Ouais. Est-ce que ça vient de qui l'expression la poune des intellos? Je l'aime tellement.
Ah oui, mais c'est bon.
Est-ce que ça vient de France?
Non, c'est quelqu'un.
Jean Bonnoyer de La Presse.
Ah ouais?
Oui, qui l'avait surnommé la poune des intellos. C'est tellement bon.
Et vous, moi j'adore. Et vous, Jean-Yves, vous ajoutez quel est le trait d'union entre Gilles Latulippe et Bertolt Brecht?
Quand même.
J'ai trouvé ça absolument épatant.
Ça a quand même surpris beaucoup de gens.
C'est vrai. Hein? Et alors, après 30, 40, 50 rencontres, vous voyez encore, France?
Oui. Ben moi, je vous vois ma mère. Mais ce n'est pas parce que France peut être ma mère.
Non, je comprends.
Mais j'aurais beaucoup à avoir France comme mère, parce que ça ça aurait pu être intéressant. Mais j'ai eu une mère intéressante aussi, mais disons que c'est pas la même chose, on va dire.
Non, mais moi, il me semble que France, on est un paquet à se dire, j'aurais voulu l'avoir comme mère, comme sœur, comme amante, comme en tout cas, il y en a quand même.
C'est riche.
J'ai de la place.
Oui, mais oui, excusez-moi, j'ai
perdu... Vous voyez ça.
Oui, le vous.
C'est ça, le vous.
Oui, puis à un moment donné, je lui ai demandé si ça la dérangeait, si ça créait une distance. Et elle y a pensé, parce que je voulais pas non plus la faire sentir comme beaucoup plus vieille qu'elle est. Mm-hmm. Parce que France, honnêtement, elle a pas d'âge.
Oh, que c'est joli, ça.
Elle a pas d'âge. Je veux dire,
c'est très beau, ça.
Parfois, on se parle et elle est plus jeune que moi. Puis, je veux dire, c'est vraiment étonnant. Donc, elle y a pensé, puis elle s'est dit non. Elle a trouvé ça presque chevaleresque.
C'est vrai.
Oui. Jean-Yves Girard, il nous reste malheureusement très peu de temps, mais je voudrais qu'on vous y avez pris goût. Est-ce que c'était votre première biographie?
Oui, c'est la première biographie.
Mais c'est pas la dernière.
Non, ben,
est-ce qu'on peut en parler ou pas?
Oui, bien sûr. Ben, j'en ai écrit une autre qui est sortie il y a quelques mois, qui est sur Claudette Dion, la sœur de Céline.
Oui. Donc, qui a été enregistrée aussi, d'ailleurs, je crois, ici.
Ah oui, OK.
Bien, oui.
Parce que, bon, à travers cette femme-là, il y a toute la famille Dion. Il y a maman Dion, il y a évidemment Céline. Il y a cette famille incroyable. J'ai commencé une autre biographie dont je peux pas vraiment parler présentement. Mais,
d'accord.
Donc, oui, je suis vraiment... On dirait que je suis lancé dans la biographie. Je deviens un vrai biographe.
Jean-Yves, si j'invite Claudette Dion à ce micro, vous allez revenir?
Ben, bien sûr.
Ah, ça, ce serait gentil. Vous revenez quand vous voulez. C'est vraiment agréable. C'est un genre littéraire aussi que nos auditeurs aiment beaucoup.
Mais oui,
c'est sûr. Parce que plonger dans des vies comme celle de France Castel, mesdames et messieurs, c'est vrai que tantôt, vous disiez que sa vie est un roman, mais c'est vrai, France. Oui. Ta vie est un roman, je veux dire,
oui, c'est
incroyable.
Et puis on connaît pas la fin.
Mais non, c'est ça. Et alors, tu dis à un moment donné dans le livre qu'il te reste, bon, d'après toi, un bon 10-12 ans. Là,
avec un peu de chance.
Avec un peu de chance. Oui. Qu'est-ce que tu vas en faire?
Ah, écoute.
Quel serait, à part chanter, parce que nous, on veut un show, on y tient beaucoup.
Ah, ben voilà, peut-être faire ça. Et qu'est-ce que je veux en faire? Je veux continuer.
Obtenir le rôle de ta vie. Ça, tu penses encore? Peut-être le film dont on a parlé tantôt.
Ouais.
Écoute,
sincèrement, juste être disponible et obéissante à l'énergie.
Oh! Oh là là, Emmanuel sort de ce corps! Voilà. France Castel, Jean-Yves Girard, merci beaucoup.
Merci,
je rappelle, mais de rien, France, je rappelle que ce livre, Ici et Maintenant, est disponible, bien sûr, via SQLA en version audio adaptée, que ce soit sur un CD ou que ce soit en version numérique que vous pourrez télécharger, bien sûr. Merci beaucoup à vous deux.
Merci.
Ben, jamais 203, France,
ben
on
ne
sait jamais. De toute façon, il reste 12 ans, tu pourrais bien nous en prendre un autre.
On ne sait jamais. Ça pourrait être encore plus intéressant. On verra.
Oh boy,
dit-il.
Ici et dans le temps.
Merci à vous deux. Ne quittez pas l'antenne, mes amis. Dans quelques secondes, je vous lis quelques extraits de ce livre-là. L'univers. Pourquoi ce livre? Bonne question. Par où commencer? Par l'envie de faire un grand ménage dans tous les sens du mot et de remettre les pendules à l'heure, pour moi, pour mes enfants et pour le public, qui suit ma carrière multiforme et ma vie tumultueuse depuis déjà un demi-siècle, pour ne pas oublier et comprendre toujours un peu plus qui je suis, où je vais et comment je me suis rendue si loin, ici, maintenant, pour voir jusqu'où je peux assumer tout mon vécu, toutes mes douleurs et mes zones d'ombre, tout ce que je n'avais pas encore dit, pour donner espoir et une preuve de résilience et que ça devienne contagieux. Parce que la complicité avec Jean-Yves Girard n'a fait que grandir au fur et à mesure de nos nombreuses rencontres et que j'ai aimé son ouverture, son écriture et sa rigueur. Parce que Caroline et Jean-François des éditions La Presse m'ont approché avec grand respect et ont trouvé Jean-Yves pour laisser quelque chose d'authentique et de cohérent à mes enfants. Pour mettre les points sur les i, peut-être, et les barres sur les t, une fois pour toutes. Pour que mon cheminement serve à d'autres que moi et mes proches et donne à chaque personne la permission de ne rien censurer, de respecter la vérité de ses opinions et de sa vie dans tous ses aspects. Pour me pardonner toujours un peu plus, pour continuer à avancer, pour donner un exemple que personne n'est une erreur, et puis, pourquoi pas? Thank you.
Et le papillon. Le papillon, il m'a été donné par David à un moment. C'était à la fin des années 90. Sobre depuis près de 10 ans, j'avais perdu le goût de consommer, mais pas celui de mourir, qui revenait par intervalles. Et cette fois-là, en novembre, bien sûr, le mois que je redoute le plus, j'avais décidé de passer à l'action. J'étais dans cet état d'esprit quand mon fils aîné m'a offert un cadeau. J'ai été très surprise parce que des cadeaux, il n'en fait pas. Et qu'une chandelle en papillon, c'est tellement pas son genre. Mais David est un artiste, un musicien, et il y a entre nous un drôle de lien, une connexion particulière. J'en avais un exemple. Son cadeau, je l'ai reçu comme un message. Ne le fais pas. La chandelle était un signe de lumière alors que j'étais dans la noirceur, et le papillon un signe de légèreté, de fragilité et aussi de force, puisque les monarques font le voyage du Québec au Mexique alors que moi, je trouvais la vie trop lourde à supporter. J'ai perdu le droit de me tuer. Le suicide n'est plus une solution. David ne sait pas tout ce que je vois quand je regarde la chandelle papillon. Je n'ai jamais pu le lui raconter. Il va l'apprendre dans ce chapitre. Je vous rappelle que je suis en train de vous lire quelques extraits de « Ici et maintenant », France Castel, biographie de Jean-Yves Girard. Un dernier extrait, beaucoup plus souriant, celui-ci, puisqu'il y sera question du rire de France, le célèbre rire de France Castel. Elle écrit ceci. « J'ai adoré ce titre d'un article sur moi de Nathalie Petrovski, Le rire de la vie et de l'oubli. Quand je l'ai lu, il y a eu en moi une résonance, l'oubli de ce qui n'est pas racontable et pardonnable. » La capacité de rire de ce qui n'est pas vraiment drôle. Et ça, c'est un cadeau. Et en même temps, un drame. Le rire m'a sauvé la vie. Il est souvent démesuré, à mon image, excessif, dans tout, dans les hauts comme dans les bas. Mon rire puise à diverses sources. Dans mon rire de dérision, je suis connectée à ce qui se passe. Comprendre une situation dans son entièreté me vient très rapidement, avec 3 degrés de lecture, un peu comme dans le théâtre de Brecht. Alors j'éclate. Que c'est libérateur! C'est aussi un outil très précieux, écrit France Castel. Le peu de santé mentale que j'ai et toute ma résilience découlent de cette capacité de m'exprimer par le rire. Je ris fort parce que je n'ai pas le sens de la retenue. Quand dans certains rôles que j'ai interprétés, mon personnage avait beaucoup de retenue, j'arrivais à jouer, mais je sentais que c'était vraiment contre nature. Le rire m'a aidé, m'aide toujours à ne pas tomber en dépression. Aujourd'hui, du Centre d'accès équitable aux bibliothèques, qu'on connaît mieux sous l'acronyme CAEB, eh bien, je reçois Faline Bobier. Bonjour, Faline.
Bonjour.
Vous allez bien?
Oui, oui.
Bon, alors c'est une première pour vous.
Oui, c'est la première fois, oui.
alors, vous allez voir, ici, c'est une ambiance très, très familiale.
OK, très bien.
Voyez-vous, juste avant que vous entriez en onde, on était dans les fous rires et avec le rire énorme de France Castel. Alors, voyez-vous, la table est mise dans une ambiance tout à fait festive et sympathique, chère Faline. Alors, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, vous nous parlez d'un service, peut-être, enfin, de plusieurs services différents qui sont offerts par CAEB. Quel genre de service?
Alors, comme vous savez, probablement, le CAEB, c'est un service de bibliothèque pour les personnes qui ont de la difficulté à lire les imprimés ordinaires.
Oui.
C'est un service pour les lecteurs et lectrices de tout âge. Aujourd'hui, je voulais parler un peu de nos services qui sont orientés vers les enfants et adolescents.
Mm-hmm, d'accord.
Comme par exemple, alors si vous allez sur notre site web qui est le bibliocaeb.ca.
Donc bibliocaeb, hein, je le dis tout doucement, donc bibliocaeb.ca, oui.
C'est ça. Vous trouverez qu'il y a une section spécifique avec des informations portant pour les enfants et adolescents.
D'accord.
Alors, par exemple, chaque mois, on dresse une liste des 5 livres les plus populaires avec nos jeunes lecteurs.
Oui.
Ce mois-ci, le livre le plus populaire avec les enfants est intitulé « Cœur de loup ».
Oui.
Catherine Rundle. C'est l'histoire de Théodora qui a grandi parmi les loups. Et c'est un titre qui est convenable pour les enfants entre la 3e et la 6e année et plus.
OK.
Et le livre le plus populaire avec les adolescents ce mois-ci, c'est un livre documentaire, « Isabelle de Castille ». C'est le journal d'une princesse espagnole.
OK. Alors, tout ça, donc, qu'on peut trouver via CAEB, évidemment, à grandeur du pays. C'est bien ça, hein?
Oui, c'est ça, oui.
D'accord.
Et vous trouverez également sur la page, par exemple, il y a des listes d'œuvres par auteurs favoris des jeunes, mm-hmm. Des écrivains comme Suzanne Collins, Dominique Demers,
oui.
Anne Robillard, Stephanie Meyer, Robert Munch, etc. Vous y trouverez aussi une liste de catégories populaires avec les jeunes, comme par exemple aventure, dinosaure, fantastique, sport. On fait de notre mieux aussi de produire autant de titres primés que possible,
oui.
pour les jeunes lecteurs, dans le cadre, par exemple, de la forêt de la lecture en Ontario.
Oui.
Il y a aussi dans les provinces de l'Atlantique, mm-hmm. les prix Hackmatack. C'est pour les livres qui sont primés pour les jeunes et adolescents.
OK. Et c'est en français et en anglais? Ou,
En français et en anglais,
En français et en anglais, d'accord.
En anglais, okay. C'est ça. Et on offre aussi des programmes qui sont orientés vers les jeunes.
Oui.
On a un programme appelé, c'est le programme d'accès des enseignants au
CAEB. Ah oui, alors qu'est-ce que c'est ça? Parce que justement, ouais, j'ai vu ça sur le site et ça m'intéressait grandement. Qu'est-ce que ce programme d'accès des enseignants au CAEB?
Alors, ça donne un accès gratuit à notre collection. Donc, ça comprend les formats substituts physiques, comme les livres sur CD en format DAISY,
oui.
ou les livres en braille. Ça donne aussi accès à la bibliothèque en ligne, où on peut télécharger des livres audio sur des tablettes, des ordinateurs, des téléphones intelligents,
mm-hmm.
et aussi des livres en braille électronique.
Oui.
Ça prend ce qu'on appelle un afficheur braille dynamique.
Okay.
Et sont admissibles à ce programme les enseignants qui travaillent auprès d'élèves qui sont incapables de lire les imprimés. Ça peut être dans des établissements d'enseignement primaire, secondaire et postsecondaire.
Okay.
Donc, c'est un programme pour les enseignants travaillant avec des étudiants ou des élèves qui
oui.
ont de la difficulté à lire les imprimés.
Oui.
Et quand je parle du groupe enseignants, ça englobe aussi les enseignants bibliothécaires, les
D'accord.
assistants en éducation, les éducateurs spécialisés. Vraiment, c'est quiconque mm-hmm. aide les élèves ayant une déficience perceptuelle dans un système d'enseignement officiel.
C'est vraiment intéressant. Vous savez, Faline, de plus en plus ici, chez Vues et Voix aussi, on s'intéresse aux jeunes qui ont des difficultés, entre autres, d'apprentissage.
Oui.
Donc, pas seulement ceux qui vivent avec une déficience visuelle. Alors, on est particulièrement intéressés et attentifs à ce qui se passe en ce moment à CAEB avec tout ce que vous offrez.
Oui, je pense que, comme vous dites, je pense que de plus en plus, on trouve qu'il y a, dans le système scolaire, il y a pas mal d'étudiants ou d'élèves, justement, qui souffrent des troubles d'apprentissage.
Exactement. Exactement. Dites-moi, si des enseignants, en ce moment, nous écoutent et ne connaissent pas ce programme, comment doivent-ils faire pour s'inscrire?
Alors, au Québec, donc, pour s'inscrire au programme d'accès des enseignants au Québec,
oui.
tout ce que ça prend pour l'enseignant, c'est une carte de bibliothèque de la BANQ,
D'accord.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, et le formulaire d'inscription se trouve sur le site web du CAEB.
D'accord. Et dans le reste du Canada, parce qu'on est diffusé partout, comment on s'y prend à ce moment-là, si on est en Alberta, par exemple?
En Alberta, dans les autres provinces, tout
oui.
ce qu'il faut, l'enseignant doit avoir tout simplement une carte de bibliothèque.
De bibliothèque, c'est tout. D'accord,
tout.
D'accord.
Ouais.
Bon, bah, écoutez, il y a aussi, vous savez, on pourrait en parler très, très longuement, mais enfin, en gros, j'imagine qu'il y a quand même plusieurs centaines de livres sonores, imprimés braille et tout ça, qui sont disponibles hein, pour les enseignants, j'imagine.
Oui,
oui,
les enseignants peuvent, s'ils veulent, commander des articles
qui
peuvent être envoyés par la poste. On peut faire ça et c'est aussi gratuit. Il y a un autre, si j'ai le temps, il y a un autre programme que j'aimerais mentionner.
Oui, allez-y donc.
Alors, on essaie aussi de soutenir le club de lecture des TTD.
OK.
Donc, ça, c'est pour essayer de le rendre plus accessible pour les jeunes, justement, mm-hmm. qui ont de la difficulté à lire les imprimés.
D'accord.
Donc, chaque année, on envoie une trousse du CAEB. Ça renferme des renseignements et des ressources pour aider les bibliothèques publiques à rendre leur programme du club de lecture des TTD plus accessible. Et dans la trousse, vous allez trouver des cartes postales promotionnelles avec le braille. Il y a aussi des carnets accessibles que les bibliothèques peuvent distribuer à leurs jeunes abonnés qui sont incapables de lire les imprimés. L'année dernière, par exemple, on a envoyé cette trousse à toutes les bibliothèques publiques au Québec. Bon. Avec la possibilité pour les bibliothécaires de commander des carnets accessibles supplémentaires aux besoins.
Fantastique.
Donc, tout ça, c'est pour dire que le service du CAEB, c'est vraiment pour tous les âges et
bien
intérêts.
Bien sûr, bien sûr. Écoutez, Falline, c'est passionnant tout ça. On va rappeler qu'on peut s'informer, bien sûr, à l'adresse bibliocaeb.ca. Et Falline, ben, j'espère qu'on va se reparler prochainement, vous ou d'autres consoeurs ou confrères hein, de chez CAEB à Toronto.
Oui, merci beaucoup.
Mais je vous en prie, merci pour votre participation. Au revoir.
Au revoir.
Ce n'est pas encore confirmé à 100%, mais je vous dirais que ça l'est à 95% peut-être. En principe, la semaine prochaine, je devrais vous arriver avec une entrevue téléphonique avec Éric-Emmanuel Schmitt. Vous savez qu'Éric-Emmanuel Schmitt, c'est cet auteur francophone parmi les plus lus, les plus représentés dans le monde. Publicité, oui, on le sait, tant par le public que par la critique. Ce sont quelques mots que j'ai trouvés sur la bibliographie courte, d'Éric-Emmanuel Schmitt. Sur Internet, précisons que ses pièces ont été récompensées par plusieurs Molières, par le Grand Prix du Théâtre de l'Académie française. Ses livres sont traduits en 45 langues, imaginez, et plus de 50 pays jouent régulièrement ses pièces. Selon des statistiques récentes, il serait aujourd'hui l'auteur le plus étudié, entre autres, en collège et en lycée. Ces pièces constamment créées et reprises dans les théâtres nationaux ou privés du monde entier appartiennent au répertoire contemporain. Imaginez la joie que je vais avoir de pouvoir m'entretenir, si tout va bien, avec Éric-Emmanuel Schmitt. Et il sera question notamment, on ne pourra pas évoquer tous ces livres, je pense au Mystère Bizet, je pense à Les Aventures de Poussin Premier, Cuit, etc. Ça, c'était tellement drôle. Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran, Odette Tout le Monde, etc. Mais on évoquera les deux plus récents, peut-être, qui sont arrivés au SQLA. Il y a notamment cet entretien, un livre d'entretien avec la journaliste Catherine Lalanne, qui s'appelle « Plus tard, je serai ». Un enfant et deux ou trois livres comme ça qui sont des nouveautés 2017 qui sont maintenant disponibles via SQLA ou encore CAEB. Alors on se croise les doigts pour la semaine prochaine. Et pour finir, quelques rafales. Le retour de Jules tient de Didier Van Kovelaert. Guide d'aveugle au chômage depuis qu'Alice a recouvré la vue, Jules s'est reconverti en chien d'assistance pour épileptique. Oui, c'est une reprise, hein, ce Jules de Didier Van Kovelaert. Alors, le chien a retrouvé sa fierté, sa raison de vivre. Il est même tombé amoureux de Victoire, une collègue de travail. Mais voilà que pour une raison aberrante, les pouvoirs publics le condamnent à mort. Alice et moi n'avons pas réussi à protéger notre couple. Il nous reste 24 heures pour sauver notre chien. C'est un très, très court extrait de ce livre, Le retour de Jules, de Didier Van Kovelaert. Un petit chef-d'œuvre du genre à ne pas manquer. Daniel Pennac, le comme à l'océan. Numéro 1, ils m'ont menti. Ce qu'on dit en quatrième de couverture. Ma plus jeune sœur, Verdun, est née toute hurlante dans la fée carabine. Mon neveu, c'est un ange, est né orphelin dans la petite marchande de prose. Mon fils, M. Malocène, est né de deux mères dans le roman qui porte son nom. Ma nièce, Maracuja, est née de deux pères dans « Aux fruits de la passion ». Les voici adultes, dans un monde on ne peut plus explosif, où ça mitraille à tout va, où l'on kidnappe l'affairiste Georges Lapietta, où police et justice marchent la main dans la main sans perdre une occasion de se faire des croche-pieds, et où la reine Zabo, éditrice avisée, règne sur un cheptel d'écrivains addicts à la vérité vraie, quand tout le monde ment à tout le monde, tout le monde, sauf moi. Bien sûr, moi, pour ne pas changer, je morfle, écrit Benjamin Malhausen. Si, évidemment, vous avez adoré la fée carabine, la petite marchande de prose, en tout cas tout l'univers de Daniel Pennac, vous allez vous régaler avec ce cas Malhausen, tome 1. Ils m'ont menti. La fin de l'homosexualité et le dernier gay d'Éric Duhaime, un livre et une actualité, oui, qui a fait les manchettes, on s'en souvient, qui a fait grincer quelques dents. Ben oui, je suis gay, puis après, a écrit Éric Duhaime pour donner le ton à son quatrième livre, mais le premier à traiter d'un sujet personnel. Dans ce livre, il écorche par ailleurs au passage le lobby gay, d'ailleurs c'est pour ça que ça avait fait les manchettes, qui selon lui n'a plus sa raison d'être. Il y a de plus en plus de financement pour les organisations gays qui vient des contribuables et c'est pas normal de dire Monsieur Duhaime à une époque où tout le monde accepte et tout le monde s'en fout, a-t-il indiqué, notamment en entrevue au Journal de Montréal. Alors bien, pour vous faire une tête peut-être sur ce livre-là dont il a été question et qui a semé un petit peu les mois, c'est le moins qu'on puisse dire, entre autres dans le village ici à Montréal, eh bien, je vous recommande de lire La fin de l'homosexualité et le dernier gay d'Éric Duhaime. Voilà, ainsi s'achève cette émission marquée par le rire et l'émotion. Merci à Gérald Cousineau. Merci à Jean-Yves Girard, le biographe de France Castel, qui était également présente à cette émission. Et merci à Faline Bobier de CAEB. Un gros merci aussi à Mathieu, qui est de l'autre côté, Mathieu Tessier en régie, et à toute mon équipe. Je vous souhaite une belle semaine et surtout de belles lectures. À la semaine prochaine, c'était Clotilde Seille. Salut.